Bonjour, bienvenue à Point de vue, ici Boris Chassagne, qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au sommaire aujourd'hui, le gouvernement fédéral injecte plus de 23 millions de dollars dans les infrastructures et les entreprises technologiques du Grand Edmonton, près de 1000 emplois créés.
On a des plans ambitieux pour Edmonton et pour Alberta. Et maintenant, le focus est pour diversifier notre économie, pour faire sûr que l'économie va continuer à être stable et va continuer à créer des emplois.
La saison de la pêche au crabe des neiges bat son plein au Québec. Les quotas légèrement bonifiés cette année, mais pour combien de temps?
Au début de la saison, c'est sûr que le crabe embarque mieux, puis on fait des meilleures levées. L'année passée ici, la saison était quand même bonne, meilleure que d'habitude. Le crabe est moins concentré, est plus concentré le printemps que, je vous dirais, en juillet.
Le Conseil scolaire acadien provincial à la mine basse, son projet de loi 156, qui promettait d'enfin réformer l'éducation en français en Nouvelle-Écosse, de nouveau au banc des pénalités.
Les francophones, les Acadiens francophones de Nouvelle-Écosse se trouvent en situation minoritaire. C'est toujours une bataille de garder ou sauvegarder notre culture, notre langue. Puis une manière de faire ça, c'est assurer que le système d'éducation en français va être ici dans 25, 50,
Bienvenue à Point de vue.
Bonjour à tous, ici Pénélope Clermont à Tête à la baleine en Basse-Côte-Nord. Vous écoutez Point de vue.
Vous le savez, Point de vue aime se promener et on ira faire un petit tour aujourd'hui dans l'Ouest, visiter l'Alberta, pour ensuite faire un petit transit au bord de la mer au Québec pour finir dans l'Est du pays, en Nouvelle-Écosse. Mais on lance l'émission à Edmonton où le ministre canadien des Affaires du Nord, Daniel Vandal, et le ministre canadien du Tourisme, Randy Boissonneau, avaient de bonnes nouvelles pour les élus, gens d'affaires et citoyens d'Edmonton et de l'Alberta. Accompagné du maire d'Edmonton, Amarjit Sohi, les deux ministres annoncent l'injection de 23,7 millions de dollars dans des projets d'infrastructures et technologiques en Alberta. Le Fonds canadien de revitalisation communautaire va de son côté investir 6,7 millions de dollars dans la revitalisation de certains espaces publics d'Edmonton. On parle en fait de 27 projets. Au programme, la rénovation de ruelles, la modernisation d'une station de métro, de l'art public autochtone, des allées piétonnes remises au goût du jour, et des jardins communautaires. Le ministre des Affaires du Nord, Daniel Vandal, en parle au micro de Vincent Savard.
C'est plutôt des nouveaux projets d'infrastructure communautaire qui sont positifs pour la communauté, qui ont une bonne accès à la communauté, ou des projets d'infrastructure existants qui ont besoin d'un peu de rafraîchissement ou modernisation pour faire sûr que leur vie continue pour plus longtemps. Plus tard le matin, on a annoncé un investissement de 17 millions de dollars qui vise à aider les entreprises de pointe de la région Edmonton à accéder des ressources, des capitaux et du soutien dont elle a besoin pour prendre une expansion dans le marché. Ils sont tous importants puisque toutes des initiatives qui ont été avancées par la communauté et je sais que le ministre Boissonneau a aussi encouragé beaucoup de projets. Un exemple, c'est une initiative visant à transformer deux ruelles au centre-ville en espace de rassemblement communautaire qui peut accueillir des festivals, des marchés. Un autre projet qui est une modernisation de stations de métro pour donner plus d'accessibilité et d'installation d'œuvres d'art autochtones. Un autre, c'est amélioration de l'accessibilité aux piétons et des transports actifs autour d'une avenue White, autour de l'avenue White, grâce à du mobilier urbain
S'ajoute à ces projets d'infrastructure un financement de 17 millions de dollars, lequel vient appuyer les efforts et projets d'une dizaine d'entreprises du secteur manufacturier, de l'énergie verte et des technologies numériques d'Edmonton, telles que Organic Box, PBG Biopharma, Dry Run et la Northern Institute of Technology, parmi d'autres. Cet appui va leur permettre de créer près de 880 emplois dans le Grand Edmonton. De nouveau, le ministre canadien des Affaires du Nord, Daniel Vandal.
C'est plutôt des emplois d'innovation qui vont aider à diversifier l'économie. Ils vont certainement créer des jobs, ils vont diversifier l'économie. Et puis, c'est plutôt des entreprises d'innovation et de technologie. Et un exemple, c'est Dry Run va recevoir 250 000 $ pour améliorer son logiciel de modélisation financière et lancer de nouvelles activités de vente et de marketing. Ça fait que c'est des entreprises novatrices à forte croissance d'Edmonton pour on va leur donner de l'aide pour prendre de l'expansion et créer des emplois. On a des grands espoirs et des grandes initiatives au niveau national pour se pencher sur l'énergie verte, l'énergie renouvelable. Pour faire ça, on a besoin de la modernisation, on a besoin de l'innovation. Ça fait qu'on aimerait aider des entreprises jeunes qui vont faire la recherche sur l'innovation pour donner des solutions plus long terme. On a des plans ambitieux pour Edmonton et pour Alberta. N'oublie pas qu'on a passé 2 ans extrêmement difficiles au Canada. On a perdu beaucoup d'emplois, mais on a regagné des emplois. Et maintenant, le focus est pour diversifier notre économie, pour faire sûr que l'économie va continuer à être stable et va continuer à créer des emplois, pas juste maintenant, mais au long terme.
Merci beaucoup, M. Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord.
Mon plaisir.
La saison de la pêche au crabe des neiges bat son plein au Québec. Sur la côte nord, la pêche a été lancée le 25 mars dernier, près de Tadoussac. La majorité des autres zones ont suivi vers le 4 avril. La saison de la pêche au crabe des neiges s'étend sur plusieurs mois. Elle doit prendre fin à la mi-juin environ au Québec. Pêche et Océan Canada en régule les paramètres et décrète, entre autres choses, les quotas auxquels les pêcheurs ont droit chaque année en fonction de leur zone de pêche. Marc Monger, un résident de Tête-à-la-Baleine, pêche le crabe des neiges sur le Line Daniel avec son fils Tommy et son ami Charles Marcoux. Il revient tout juste d'une première zone de pêche. Il a ramené à son bord son premier quota de 12 500 livres de crabe des neiges tiré de la zone 16A au large de l'île d'Anticosti. Il est reparti cette fois vers une autre zone au début du mois de mai et il espère en ramener plus encore. Notre correspondante à Tête-à-la-Baleine, Pénélope Clermont, attendait Marc Monger au bout du quai avant qu'il ne reprenne la mer. Elle discute avec lui du début de la saison, de la gestion des quotas et du prix du crabe.
Quelle est votre perception des quotas, soit en hausse ou en baisse cette année?
C'est surtout selon les post-saisons, puis les captures par année que le monde prenne. Parce que les années que c'est bon, les quotas ont tendance à monter quand le post-saison est bon aussi. Quand les indices indiquent à la hausse, mm-hmm. les quotas remontent. Dans la saison, ça s'est maintenu, la pêche était bonne. Puis le post-saison était un petit peu moins bon, mais quand même, il n'y avait pas de danger pour garder le même quota que l'année précédente. Fait que ça restait statu quo pour la saison.
Vous attendiez-vous à une hausse ou une baisse avant le début de la saison?
Non, on s'attendait pas mal à ça.
À ça, finalement. Oui, OK. Est-ce que le fait que vous ayez pêché votre quota si rapidement, ça signifie qu'il y a quand même plus de crabes puis que ça aurait été possible d'en capturer plus? Est-ce que vous pensez que le quota aurait pu être plus élevé?
Belle fun, c'est sûr qu'on dit tout ça. Bon, au début de la saison, c'est sûr que le crabe embarque mieux, puis on fait des meilleures levées. C'est ça. Le post-saison détermine ce qui reste sur les fonds après la saison. Donc, quand le post-saison n'est pas bon, ça ne nous aide pas, point de vue des séances.
OK.
Puis, c'est calculé selon la grosseur de la carapace, le jeune adolescent qui grandit, qui va venir dans nos prochaines saisons. C'est tout ça est mesuré pour les années qui vont venir.
OK. À quoi vous attendez pour l'année prochaine? Est-ce que le poste...
Présentement, la pêche est très bonne. Ouais. Donc, l'année passée ici, la saison était quand même bonne, meilleure que d'habitude. Puis, c'est ça, on espère bien gros qu'on va augmenter encore un peu l'année prochaine. Mais ça augmentera jamais de gros, ça va des 10-20% d'augmentation. Ouais, ouais, ouais. Ce sera pas des grosses augmentations. À moins qu'il y aurait quelque chose de spécial qui se passerait. Mais non, je pense que ça va plus être, ça va être calculé chaque année, comme d'habitude, là.
Puis à Tête à la Baleine, ici, dans la zone 14, il y a eu une diminution de
15%. De 15%, okay.
Ça, vous attendiez aussi à cette diminution-là? Ou...
Bien, la pêche était quand même assez bonne, meilleure que d'habitude.
Okay.
Mais le post-saison était un désastre. Ça fait que... On devrait-tu croire au post-saison? On devrait-tu plus le croire? Cette année, ça va nous prouver, ça va nous quand même nous dire si la pêche est bonne, que le post-saison est un peu broyé. Il y avait des facteurs qui ont affecté la post-saison aussi, la puce de mare qui mange tous les appâts. Ça faussait un peu les données. Enfin, c'est ce qu'on a plaidé un peu ici aux sciences. C'était un peu, pas nécessairement une bonne indice. Parce que quand que les appâts sont tous mangés par la puce de mare, ben les appâts, il n'y a plus rien qui va attirer le crabe.
Okay.
Donc le crabe n'embarque pas de l'incasie.
Je reviens à tout à l'heure, vous avez dit en début de saison, la pêche est bonne normalement. Qu'est-ce qui fait que là, les crabes embarquaient dans le casier? Les casiers,
qui embarquaient, je pense, sont plus affamés. Mm-hmm. Sont plus affamés. Puis sont plus concentrés au même endroit.
Okay.
Le crabe est plus concentré, donc parce qu'il y a moins d'appâts sur le fond. Le crabe est moins concentré, est plus concentré le printemps que, je vous dirais, en juillet. En juillet, est-ce que le crabe est un peu partout, mais pas en grande quantité.
Mm-hmm. Okay.
À cause qu'il y a de la poisse sur le fond, puis il y a bien des choses, que le crabe change d'endroit. Il y a bien des petites choses là-dedans. Des fois, on pense qu'on connaît ça vraiment, mais des fois,
il arrive à vous surprendre encore avec ces années-là.
Oui, c'est ça.
Oui. On a beaucoup parlé dans les médias, là, entre autres, du prix du crabe. Comment vous vivez ça, vous, quand vous êtes sur un bateau? Là, j'ai appris moi-même que vous apprenez le prix du crabe carrément en arrivant à l'usine là, puis en vendant
vos... Carrément, cette année, le prix, il nous donne un peu moins cher que l'année passée. Présentement, on l'a 7,5$. L'année passée, on l'a vendu à 8$, qui est quand même très, très, très bon. Mais on attend l'autre bord, la Gaspésie, qu'ils vendent à 12$ de la livre. Puis, c'est sûr que le consommateur n'est pas très content de ça.
Mm-hmm.
C'est très cher pour le consommateur, mais pour les pêcheurs, c'est quand même bon. Bon, mais on sait que c'est dangereux aussi, que le consommateur arrête d'en manger, puis il va rester ses tablettes, puis les prix vont chuter. On sait tout ça, c'est en montagne russe pas mal. Mais on espère bien que ça va rester quand même un prix stable.
Mm-hmm.
Il y a le marché américain qui est très bon présentement. Ça, c'est sûr, ça affecte nos prix beaucoup si le consommateur ne l'achète pas. On espère bien qu'il n'achète.
Qu'est-ce qui fait qu'en Gaspésie, il est acheté plus cher qu'ici, par exemple, ou les pêcheurs reçoivent plus qu'ici?
Ben, je sais pas trop. Je pense qu'ils l'amènent sur le marché plus vite que nous autres. Puis, ils ont beaucoup de poissonneries dans le coin aussi.
Okay.
Mais si le consommateur ne l'achète pas, et en tout cas, le prix, d'après moi, le prix va se réajuster nous autres aussi. Le marché est frileux à cause de la guerre aussi. Ben des choses qui vont en ligne de compte. Ouais.
Le fameux prix de l'essence dont tout le monde parle, est-ce que ça a affecté vos
activités? Ça affecte beaucoup tout le monde sur le bateau parce qu'on est au pourcentage. Notre revenu est au pourcentage. Puis, c'est sûr que le prix de la boîte aussi est rendu à 1$. On l'a payé le hareng à 1,50$. Non, 1,25$. Puis le maquereau à 1,55$. Puis le fuel, je pense, à 1,80$ qu'on l'a payé du litre. Quand je remplis mes réservoirs, c'est 10 000 litres.
Ah oui, hein,
ça consomme aussi quand même beaucoup. Mais c'est ça. C'est... le prix compense.
Est-ce que globalement, on peut dire que c'est une bonne saison pour vous?
Bien, ça commence seulement. Ouais. Là, j'ai atteint mes quotas, je vous en parlerai.
C'est bon.
Mais moi, présentement, oui, c'est bon, c'est très bon. C'est seulement 12 500 livres quand même, présentement. Quand les quotas vont atteindre, qu'on a le prix quand même, ça va être une bonne saison, oui, oui.
Bon, quand M. Monger parle de la boîte, il s'agit bien de poches de hareng. Aussi, on utilise le maquereau quand on pose les casiers au fond de la mer, les cages au fond de la mer. Les quotas de pêche ont augmenté d'environ 15 % en 2022.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter @CanadaLJI, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
Le projet de loi 156 sur l'éducation acadienne et francophone a été déposé le 12 avril dernier à l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse. La communauté francophone s'était enthousiasmée lorsqu'il a été déposé, mais faute d'un accord entre les députés à l'Assemblée législative, son étude a été reportée. La question de la protection et de la promotion de l'éducation en français est à l'ordre du jour depuis des décennies dans cette province. L'étude de ce projet de loi privé, écrit d'ailleurs en collaboration avec le Conseil scolaire acadien provincial, CSAP, et présenté par le député libéral de l'opposition, Ronnie Leblanc, devra attendre. L'initiative du député Leblanc avait suscité espoir et confiance chez ceux, et d'ailleurs nombreux, qui attendaient de faire enfin bouger le système éducatif francophone dans cette province. Le Conseil scolaire acadien provincial, qui par voie de communiqué, souligne le fait que l'éducation en français langue première en Nouvelle-Écosse n'a jamais été revisée ou réformée depuis la création du CSAP en 1996, et ce, malgré sa croissance au fil du temps, les développements juridiques importants concernant les droits de la communauté acadienne et francophone, garantis d'ailleurs par la Charte, et la réforme de l'éducation en langue anglaise, amorcée par la province en 2018. Alors, le Conseil scolaire acadien provincial, qui ajoute que le projet de loi 156 édicterait une loi scolaire conforme à la Charte canadienne des droits et libertés, séparée et indépendante, le CSAP exhorte les parlementaires à travailler ensemble pour assurer son adoption et en faire un moment historique pour l'éducation en français, langue première en Nouvelle-Écosse et au Canada. La Nouvelle-Écosse peut servir d'exemple pour tout le Canada en adoptant le projet de loi déposé à l'Assemblée, précise M. Marcel Cotreau, président du CSAP. Ronnie Leblanc, membre donc de l'opposition et député du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse et co-auteur du projet de loi, témoigne au micro de notre journaliste Sébastien Beltran de son engagement à voir aboutir ce projet de loi. Vous l'entendrez souvent citer le nom du CSAP. Il s'agit bien, on vous le rappelle, du Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse.
Bonjour, monsieur le député.
Bonjour.
J'ai pu regarder avant cette entrevue ce que mes confrères journalistes avaient écrit sur le sujet. Alors, on y parle de gouvernance, on y parle d'éducation, de contrôle et de consultation. Il est écrit dans le projet de loi qu'il doit permettre d'obtenir un enseignement et des résultats équivalents à ceux atteints dans les écoles publiques régies par la loi intitulée Education Act. Alors, pourquoi aujourd'hui les résultats ne sont pas équivalents alors qu'on s'attendrait au niveau provincial à des objectifs communs en matière d'éducation? Alors, qu'est-ce qu'un étudiant francophone a de plus ou de moins qu'un étudiant anglophone?
Un parfait exemple, c'est, disons que le système anglophone, les notes ou les marques en mathématiques sont extrêmement basses. Le département pourra dire, nous allons investir 2 millions de dollars pour essayer de, tu sais, augmenter ces notes-là. Ça se fait que les notes en mathématiques dans le système du CSAP sont une des plus fortes au Canada, mais la manière que l'argent sera distribué, ça sera pour être dépensé sur les mathématiques. So, ils ne prennent pas en considération les enjeux ou les différences qu'il y a entre le système du CSAP ou les écoles du CSAP et l'éducation puis celle de l'anglais. Les francophones ont des certaines difficultés dans certains sujets, les anglophones dans différents sujets. Ils devraient avoir une manière pour faire ces distinctions-là puis investir lorsque ça va faire le plus de bien pour amener les deux systèmes en égalité quand ça va les performances, les notes et ces choses-là.
Ben vous faites très bien la transition parce que je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'avoir deux systèmes éducatifs qui fonctionnent indépendamment les uns des autres n'est pas un peu dangereux? Alors, je m'explique. Est-ce qu'on ne prend pas le risque d'avoir un système à deux vitesses, l'un qui fonctionne bien quand le gouvernement est pro-francophone et l'autre qui est à la traîne quand le parti politique au pouvoir n'en fait pas une priorité?
Oui, je veux dire, croire que cet argument-là peut être ferme à la réalité, c'est que les francophones, les Acadiens francophones de la Nouvelle-Écosse se trouvent en situation minoritaire. C'est toujours une bataille de garder ou sauvegarder notre culture, notre langue. Puis une manière de faire ça, c'est assurer que le système d'éducation en français va être ici dans 25, 50, 100 ans. La réalité de notre situation ici en Nouvelle-Écosse, c'est que la grande majorité de la population est anglophone. La grande partie des bureaucrates, des politiciens sont anglophones. Ça, c'est pour assurer qu'on se trouve dans une bonne situation quand ça vient à la gouvernance du système d'éducation en France.
Alors, pour conclure, mais vous avez été élu en 2021, vous personnellement, et le parti a basculé dans l'opposition à ce moment-là des élections. Alors, cette question sur l'éducation qui semble fondamentale pour la communauté, pourquoi n'a-t-elle pas été proposée avant? Et maintenant que vous êtes dans l'opposition, comment faire pour que la loi soit adoptée?
Oui. Si je peux réaliser que le Parti libéral est en pouvoir, est en fait travailler dessus, et il y a eu des difficultés à le faire avancer, mais quand ce que Ian Rankin a devenu premier ministre, c'était une de ses priorités, c'était à faire avancer cette loi ici. Il était seulement premier ministre pour 6 mois, mais dans son terme, il a établi un comité avec les députés, le député ministre du département d'éducation. Il a rentré le CSAP, il a rentré Lina Diab, qui était responsable pour les affaires acadiennes. Il avait quelqu'un de l'office du premier ministre à la table. Dès qu'il est devenu premier ministre, il a travaillé extrêmement fort pour faire avancer ce programme de loi ici. Et c'est à son intention et c'est à sa promesse à la communauté acadienne que si qu'il rentre en gouvernement, que ça allait être une des premières lois qu'il allait déposer. Sauf quand moi, Hassad me décidait si je voulais me présenter pour le Parti libéral et devenir un député, une de mes priorités va être, et en discussion avec le chef, cette loi ici est extrêmement importante pour la communauté acadienne et pour le CSAP, et qui m'avait assuré que si formions le prochain gouvernement ou le gouvernement de nouveau, que ça allait avancer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et dès l'élection, j'espère avoir le gouvernement du jour, le gouvernement PC, travailler avec le CSAP pour prendre le travail qui avait déjà été fait, qui est une grande partie du travail, puis là, l'avenir est une autre étape pour qu'il puisse l'introduire. Mais ce n'est pas ça qui est en train d'arriver. Il n'y avait pas beaucoup de je ne veux pas dire d'intérêt. Il y a beaucoup de priorités dans le gouvernement, puis je comprends ça, la santé, on peut les nommer. Mais en même temps, c'est certainement une priorité pour la communauté acadienne, puis je voulais voir ça comme une de leurs priorités. Puis à ce point-ci, c'est quoi qui peut-être qu'ils pensaient faire dans le futur, mais il n'y avait pas d'indication que c'était une priorité. So, en tant que député et critique des affaires acadiennes, en travaillant avec les communautés CSAP, je pensais que c'était une bonne façon à venir la discussion, à déposer la loi, le mettre dans la chambre pour un débat, montrer l'importance de l'apport des communautés acadiennes et CSAP, que ce loi-ci fût adopté, puis que ça avancera le discours et ça commencera le débat sur cette loi-ci qui est très important.
Alors, ce que vous dites là, c'est très intéressant. Moi, j'ai l'impression que quand j'ai lu les différents articles, qu'au final, le gouvernement, comme l'opposition, considèrent que c'est quelque chose d'important pour les communautés francophones. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un consensus, une unanimité qui fait qu'on pourrait trouver une solution ou un dénouement rapide à cette question? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre et repousser d'échéance en échéance?
Oui. Vraiment, comme député d'une région circonscription acadienne, il n'y a rien j'aimerais plus de voir que les trois partis établir un comité, tu sais, l'NDP libéral avec des membres qui représentent des communautés acadiennes, puis qui se mettent au travail pour, tu sais, signer des modifications à faire, les faire, mais que ça, qu'on pourra travailler ensemble pour faire avancer ce programme de loi ici. C'est-à-dire l'intention, moi, mon intention et l'intention du CSAP, ce qu'ils veulent voir, c'est le programme de loi introduit et passé. La manière qu'on se rend là, c'est ça qui est difficile. Mais moi, je suis pas là à supporter que ce soit un comité, que ce soit le gouvernement du jour. Pour moi, c'est que la loi s'est adoptée. Je suis pas là à travailler avec n'importe qui pour faire ça arriver, honnêtement.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quelles sont les étapes pour cette loi? Comment ça va se terminer?
Ah, c'est difficile à dire. Avons introduit la loi, c'est une loi de 105 pages écrite en anglais, puis en français. Ça comprend que, tu sais, le gouvernement a une certaine responsabilité de passer à travers les deux lois fâchées qui s'enlignent. Je suis pas mal confiant que c'est une loi qui est extrêmement bien écrite et qui pourra passer telle qu'elle est présentée. Mon espoir, c'est qu'ils allons prendre un petit temps, mais pas trop de temps, à passer en travers, puis là, commencer à avoir des discussions avec le CSAP et les communautés pour voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble pour faire avancer ce programme de loi ici.
Bon, bien, on suivra l'évolution du projet avec attention. Ouais. Merci, monsieur le député. Donc, je rappelle que vous avez été élu à l'Assemblée législative au sein du Parti libéral, et que vous êtes co-auteur du projet de loi sur l'éducation acadienne et francophone.
Merci.
Et bien voilà, c'est tout pour nous à Point de vue. On vous invite à consulter notre site web où vous pouvez lire et écouter tous les reportages produits par nos journalistes postés à travers le pays. Rendez-vous donc sur canada-info.ca, canada-info.ca. Vous le savez, on est branché sur Twitter, @CanadaLJI, CanadaLJI. Écoutez toutes nos émissions sur vos plateformes préférées, aussi sur le site web. On remercie nos journalistes, donc Vincent Savard, Sébastien Beltran, Pénélope Clermont et leurs invités, bien sûr. Merci aux artistes qui nous offrent leur musique, comme d'habitude, et à notre coordonnateur national, Stéphane Bénard. On vous rappelle que cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. Ici, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Revenez-nous la semaine prochaine. Au revoir.
@CanadaLJI.